quand j'écris, il y a une sorte de flot, un flot pensant, enfin, et ça se rapporte à certaines pratiques artistiques. C'est, pour moi, c'est comme peindre. Si j'étais musicienne, je dirais que c'est de la composition musicale. C'est une façon de chanter ou d'enchanter et d'être enchantée. Alors, par le meilleur et le pire, parce qu'il faut dire que l'écriture, ça sert surtout à faire face au pire.
De tous les combats pour le droit des femmes contre la guerre d'Algérie, pour un enseignement libre à l'université, de toutes les aventures avec Ariane Mouchkine et le Théâtre du Soleil ou avec Jacques Derrida pour le Parlement international des écrivains ou le comité anti-apartheid, Hélène Cixous est l'une des voix les plus considérables de la littérature francophone et l'une des plus libres. Bonjour Hélène Cixous.
Bonjour Pascal.
À l'heure que paraît un nouveau récit intitulé 1938 Nuit, vous nous recevez chez vous dans le 14e arrondissement de Paris, dans un immeuble récent. On voit les toits et l'horizon parisien. Et c'est un appartement que je ne pouvais imaginer autrement que rempli de livres.
Ce qui est le cas.
Ce qui est le cas. Vous écrivez oui. Autant que vous ne lisez ou ne lisez autant que vous écrivez?
Je pense que c'est le même geste à plusieurs visages, parce que pour moi c'est absolument indissociable. Il n'y a pas de jour où je ne lise pas, et où je ne lise pas de manière intense, et très diversement, en lisant beaucoup beaucoup de livres qui me suivent partout, j'en ai dans toutes les pièces. Mais enfin, lire c'est comme respirer, manger, boire, et bien sûr ça alimente complètement, comme les fleuves, ça alimente l'écriture, ça arrose... les pages sèches, mais ça, je crois que c'est mon mode de vie depuis toujours.
Mais vous n'écrivez pas ici, m'avez-vous dit en m'accueillant. Vous avez une maison d'écriture.
J'ai une maison d'écriture qui est un refuge dans la forêt, très forestier, où il n'y a que des animaux, en fait, et rien, je coupe tout, il n'y a que les arbres. Et j'ai besoin de reprendre quelque chose, de me réaccorder avec la nature. Pour moi, c'est absolument vital. Si bien que mes textes, ceux qui pour moi comptent, ils commencent tous là. Comme justement d'une végétation animale. Alors, comme je n'y passe pas ma vie, mais j'y passe quand même 2 mois par an, absolument intouchable, intouché. Ensuite, pendant l'année, j'écris des petites choses. J'ai des cahiers, je note. Mais vraiment, en écriture, j'ai besoin de m'en aller. Je ne peux pas être ici.
Donc, toute votre œuvre, et elle est très importante, est écrite dans cette maison d'écriture.
Quasiment.
Donc, des récits, des essais, de la philosophie, de l'histoire de l'art, du théâtre. Écrire est votre vie.
Une de mes vies, bien sûr. Mais enfin, je ne vais pas dire que c'est la principale, mais elle le dispute à mes vies affectives. C'est une vie qui commande, que j'attends. À la fois, c'est une très grande puissance, mais c'est aussi une très grande faiblesse. J'ai toujours considéré que, puisque je ne peux pas vivre sans écrire, c'est qu'il y a quelque chose quand même en moi qui ne suffit pas. Et c'est pour ça que j'ai toujours admiré ma mère, qui a toujours été mon contraire, d'une certaine manière, qui savait vivre uniquement de vie, d'action, de plaisir quotidien, de combat aussi, toujours. Mais l'écriture, elle ne voyait vraiment pas à quoi ça servait.
Vous avez toujours voulu être écrivain? Enfin, ça a été une décision ou pas?
Oh, ça a été décidé pour moi, pas par moi. Quand mon père s'est éteint très brutalement, quand j'avais 10 ans, et dans une période historique qui était une période de grande violence, au pluriel, j'ai commencé à fabriquer des radeaux de papier. Et ça, je le sais, je l'ai vécu, et ça s'est toujours renouvelé. C'est quand même une façon de répondre... dans un défi, à la mort qui n'arrête pas de nous parler. Hein.
Quand vous écrivez, il se passe quoi? C'est un dédoublement ou au contraire, vous êtes en vous-même? Je vous pose cette question, Hélène Cixous, parce que dans 1938 Nuit, donc votre nouveau récit, vous dites que écrire, c'est rentrer à l'intérieur de Siegfried, qui est le personnage du livre. Vous dites même que c'est une sacrée excursion.
Oui, parce que dans ce cas, j'ai eu besoin de passer par un corps qui n'était pas le mien. Et comme je le dis à un certain moment, je crois c'était parce que, en fait, les corps par lesquels j'avais besoin de passer, comme au théâtre, si vous voulez, on passe par les corps des comédiens, et qui auraient été ceux de ma famille, celui de ma grand-mère, celui de ma mère et de la famille proche, Ils ne répondaient pas. D'ailleurs, je posais des questions et il n'y avait pas de réponse parce que tout simplement, ça concernait de grands mystères, comme la question que je pose concrètement, parce que c'est très concret, et que je pose à ma famille allemande, juive, qui, pour une partie seulement, est restée sous le nazisme très tard, et au-delà du possible. Et donc j'ai eu envie, concrètement, de comprendre ce qui fait que quand on est devant des démons cruels, qu'est-ce qui fait qu'on ne prend pas la poudre d'escampette? Comment ça se fait qu'on... C'est une question qu'on se pose souvent, mais pour moi, elle était très concrète. Sauf que j'ai bien vu que les personnes de ma famille qui ont été prises là-dedans n'avaient pas de réponse, enfin ne savaient pas eux-mêmes, étaient dans l'incompréhension. Et puis j'ai trouvé un proche qui avait des réponses à donner et qui avait laissé beaucoup, beaucoup de traces. Ça, c'est un hasard. Hein.
C'est donc Siegfried?
C'est Siegfried qui a été déporté à Buchenwald, qui en est sorti. Ça, ce sont des histoires qu'on peut expliquer très techniquement. Qui, là-dessus, a eu la chance d'avoir un visa pour la Suède, d'où il a fait le tour du monde et il a fini par arriver aux États-Unis. Et en arrivant aux États-Unis, comme tant d'autres, il a laissé tomber Siegfried, il est devenu Fred. Ce qu'on comprend parfaitement.
C'est donc le principal personnage de votre livre, on en reparlera, mais en introduction je parlais de combats ou d'aventures que vous avez menées, Hélène Sixou, mais le mot qui me revient le plus souvent quand je pense à vous, c'est le mot de liberté. Parce que vous avez une écriture, je trouve, absolument libre, vous inventez une langue, une graphie parfois, qui nous oblige, nous lecteurs, à être toujours en état d'éveil ou de surprise.
Oui, on peut dire que je l'invente, mais elle vient à moi. C'est-à-dire que je ne la refuse pas. Quand elle me propose ses services, je la remercie. Et il y a très longtemps que je sais qu'elle a tous les droits d'être étrangère, à la fois en français, c'est-à-dire le français étranger au français. Et là, je ne suis pas seule. Hein, les grands écrivains français s'autorisent à ce genre de choses. Et depuis très longtemps, je me dis, je ne vois pas pourquoi je m'interdirais de faire usage de ce que je fais dans la vie courante, c'est-à-dire du voisinage. Auxquels je peux demander secours, que ce soit l'allemand, l'anglais, le latin, ou enfin les langues qui viennent à moi et qui m'aident pour aller plus vite, pour aller plus loin aussi, puisque comme vous le savez, les langues couvrent des territoires immenses, mais il y a aussi des zones qui restent des zones muettes, et hop, on trouve d'autres vocables, même d'autres sentiments dans la langue d'à côté. Or, quand même, nous sommes en temps supposé être européens, au moins. Hein, bon. Et je me dis... Je n'ai pas à m'interdire et à interdire à l'écriture et au poétique d'aller jouir de 1000 possibilités parce que de toute façon, le public, il va suivre et s'il ne suit pas maintenant, aujourd'hui, eh ben, il suivra demain. Là, je fais absolument confiance. Et bien sûr, il faut passer par-dessus les petites résistances éditoriales. Mais bon, ça...
Mais il y a cet emprunt aux autres langues européennes, mais il y a aussi des inventions dans le français lui-même.
Ah oui, bien
Par
sûr.
Exemple, vous inventez, j'adore ça, le mot « l'UVQ ». Oui. L'UVQ est un seul mot, c'est-à-dire ce qui est lu et vécu,
oui.
Ou jour-nuit.
Mais ça, ce sont des alliages dont je pense qu'ils fonctionnent très bien, c'est-à-dire à mon avis une jeune personne. Et aussi, ce sont des pratiques par contre courantes dans des langues prochaines. Par exemple, en allemand et en anglais, on compose tout le temps. Et parfois même, ça donne des mots extraordinaires. C'est-à-dire qu'en allemand, on peut avoir un mot qui a une ligne, parce qu'on peut combiner. C'est un seul mot, mais c'est un mot à 10 mots, c'est un train, quoi. Alors moi, je ne fais pas ça, je ne fais pas un mot à 10 mots, ça serait ce que ferait Joyce. Mais je m'autorise, quand parfois je veux rappeler ce qu'il y a à l'intérieur d'un mot, ce vers quoi il nous porte, ce dont il a besoin aussi pour avoir un peu plus d'énergie. Voilà. Et ça se fait aussi phoniquement, c'est-à-dire que si c'était... désagréable à l'oreille, et ça, c'est un drôle de truc. Hein. C'est-à-dire que nos oreilles trient, hein. Elles aiment une certaine musique, et quand elles reçoivent des dissonances, c'est aussi par un certain plaisir, c'est un jeu musical. Et en fait, je sais que ça marche parfaitement, il y a plein de néologismes qui fonctionnent très bien, et je vois aussi d'ailleurs qu'ensuite, ils ont un avenir. Par exemple, il y a 10 ans, je ne me rappelle plus quand, j'avais eu besoin du mot « oublier » pour faire entendre que quand on lit un livre, important et ayant de la substance esthétique et philosophique, en même temps, ça s'accompagne d'une fonction d'oubli, c'est-à-dire que quand j'ai fini de lire le livre, il est déjà en train de se retirer, ce qui me permet de le relire et de le relire un petit peu plus tard d'une autre lecture. Voilà. Et en fait, lire vraiment un livre, quand on est un vrai lecteur, ça signifie savoir qu'on va le lire une première fois, ce qui est très précieux, une deuxième fois, ce qui est quasiment une première fois, une dixième fois, une vingtième fois, et puis ça change aussi avec le temps, avec l'âge, et on a la chance de pouvoir relire à l'infini, mais ça fonctionne à partir de l'oublier. Alors quand j'avais laissé passer ce petit mot, il a été recueilli dans beaucoup de lectures critiques, etc., et ça marche. On en avait besoin.
On en avait besoin. Hélène Cixous, nous allons précisément parler de votre nouveau récit, mais j'avais envie de vous faire entendre auparavant le violoncelle de Sonia Vider-Atherton et ses transcriptions de chants juifs. De vive voix avec à l'affiche Sonia Vider-Atherton et notre invitée Hélène Cixous qui nous reçoit chez elle pour son nouveau texte 1938 Nuit, un chiffre et une date. Et cette date est celle de la nuit étoilée du 9 au 10 novembre 1938. Quand je dis nuit étoilée, c'est vous qui l'écrivez. Cette nuit qu'on a appelée la nuit de cristal, qui fut le premier pogrom contre les Juifs en Allemagne, avec un événement comme point de départ dans la ville où est votre famille, à Osnabrück, l'incendie de la synagogue. C'est un événement que vous avez connu et pas connu.
Ah ben, je ne l'ai pas connu, mais naturellement il m'a été rapporté, mais sans insistance particulière, parce que cette nuit-là, 1500 ou 2000 autres synagogues ont brûlé au même moment, à la même minute, parce que ça c'est extraordinaire, ça a été mis en scène quand même par Heydrich, et donc ce personnage a envoyé un télégramme dans les heures qui ont suivi, en donnant l'heure exacte à laquelle on allait brûler toutes les synagogues du Reich, parce qu'il n'y avait pas qu'en Allemagne. Et ça, je trouve ça tellement phénoménal. Là-dessus, je fais face à quelque chose. En tout cas, c'est mon expérience. Je pense qu'elle doit être partagée. Ces choses-là, quand on les lit dans les livres, finalement, ces grands incendies, à mon avis, ils s'éteignent. Parce que on ne les vit pas, on les rapporte. Alors après, il y a bien sûr des moyens de ranimer ça au cinéma. Enfin, j'ai jamais vu ça. De toute façon, je n'ai jamais vu le réallumage comme ça de ces incendies.
Mais la littérature le peut.
Mais la littérature peut, mais il faut qu'elle se donne les moyens.
Mais autant vos phrases sont parfois très complexes, très longues, très sinueuses, très, avec beaucoup d'adjectifs possibles. Mais en l'occurrence, pour dire cela, vous avez des mots très précis, très courts, très simples. Je vous cite, la synagogue brûle, deux mots, une flamme, une phrase torche.
Mais parce que c'est pas moi qui l'ai dit ça, voilà. Et je ne sais pas si moi... je l'aurais dit de cette manière-là.
Mais et qui l'a dit ?
Ben, une dame qui était voisine de la synagogue et qui a pris son téléphone pour appeler quelqu'un d'autre et dans la chaîne comme ça de l'information, à 2h du matin, a simplement eu la force de dire « Die Synagoge brennt ». C'est tout. Et on comprend parfaitement. Mais pour que ces deux mots, ça c'est du théâtre, hein, pour que ces deux mots prennent leur force, il faut évidemment qu'ils soient entourés d'une nappe brûlante de mots, cela étant absolument isolé, humble, réduit à presque rien, comme ça c'est une petite cendre. Ensuite, pour que ça nous atteigne, eh bien, Il faut arriver à entrer dans les émotions de ces personnes qui sont comme vous et moi et qui en pleine nuit se réveillent une nuit froide mais réchauffée par l'incendie de la synagogue qui est absolument monstrueux à voir. Il y a des documents, hein, ces documents je les ai vus. Et bien sûr qu'ils ne vont pas se mesurer avec l'événement, au contraire. Plus ils sont tout petits dans leur angoisse atroce et irrémédiable, plus justement cet incendie prend ses proportions de véritable incendie, avec ce que ça a pu signifier. Et puis ensuite, il faut voir où ça se passe, dans quelle rue, dans une rue que j'ai vue. Parce que là aussi, j'ai eu besoin d'aller, comme au théâtre, lorsque j'écrivais pour le Théâtre du Soleil sur le Cambodge, il a fallu que j'aille sur place pour que ça s'incarne, cette chose-là. Et puis, alors le contexte historique, là, les machinations absolument diaboliques qu'il y a là derrière, tout ça c'est très important, mais ça ne prend justement chair et cendre que si on passe par les cœurs de ces petites personnes qui sont totalement dépassées par quelque chose d'absolument apocalyptique.
Ça s'incarne, et ça s'incarne dans cette ville si importante pour vous et dans votre œuvre, Hélène Cixous, c'est Osnabrück. Mm-hmm. Alors vous n'êtes pas née à Osnabrück, non. C'est la ville de votre mère et de votre grand-mère, vous êtes née en Algérie, mais cette ville est très essentielle pour vous. Vous le dites, c'est le quatrième livre avec lequel vous revenez dans cette ville natale.
Enfin, j'essaye de revenir, parce que les premiers, c'est que justement, je n'y allais pas, je n'y arrivais pas, et j'ai bien pensé finir mon existence sans y aller. Par contre, elle était très présente depuis ma toute petite enfance, à l'intérieur de ma maison. J'ai toujours dit d'ailleurs que par une sorte de chance anagrammatique, j'avais découvert quand j'étais toute petite et quand ma grand-mère allemande d'Osnabrück est arrivée et nous a rejoints à Oran, que les lettres d'Oran étaient dans Osnabrück. J'étais convaincue que ce hasard n'était pas un hasard. Voilà, c'était une sorte de combinaison magique qui alliait ces deux villes d'où je venais et qui toutes les deux étaient porteuses de malédictions atroces. Hein, le nazisme à Osnabrück, à Oran, le colonialisme le plus épouvantable et le pétainisme que j'ai vécu très directement, donc là, l'écho du nazisme en Algérie. Et ensuite, ma mère et ma grand-mère racontaient les histoires d'Osnabrück, si bien que cette ville était parfaitement vivante, même si je me disais, je n'irai jamais, je ne la connaîtrai pas, mais je la connaissais de l'intérieur, je voyais ces personnages qui passaient dans les rues, etc. Pour moi, c'était une ville très vivante, mais impossible. Et puis, la ville d'Osnabrück est prise maintenant dans ce grand mouvement qu'il y a en Allemagne et qui est extraordinaire et qui s'appelle Erinnerungskultur, la culture de la remémoration, et qui est un mouvement pédagogique, politique, éthique, inouï, que je trouve admirable. Et donc cette ville qui a été à 90% nazie tout de suite, en 28-29 elle était déjà nazie, elle est maintenant de l'autre côté. Elle est au contraire droit de l'homme, ville de la paix, etc. Et en 85, la mairie a commencé à faire revenir, enfin, à scruter l'univers pour voir s'il n'y avait pas des juifs d'Osnabrück qui avaient survécu. Et il y en avait une poignée. Ils les ont invités. C'est comme ça que ça a commencé. Et donc ma mère et sa famille, qui pensaient ne jamais remettre les pieds à Osnabrück, pas en Allemagne, hein, parce qu'elle est souvent allée en Allemagne avec moi, s'y retrouvaient. Et ça, c'était une expédition tout à fait épique, dont j'ai rendu compte ailleurs. Et après quoi, je me suis dit, bon, maintenant, maman, puisque tu as été à Osnabrück avec ta sœur, etc., maintenant on va y aller ensemble. Puis c'est devenu impossible. Au fur et à mesure que je faisais des tentatives pour m'approcher d'Osnabrück avec ma mère, il y avait toujours une sorte de chose que je ne détectais pas et qui, à la dernière minute, disait « Ah ben non, on ne va pas y aller parce qu'on a déjà été. » Je dis « Mais moi, je ne suis pas allée. »« Non, non, mais ce n'est pas intéressant. » Enfin bon, on n'y est pas allé. Et quand ma mère est partie, je me suis dit « Ben voilà, on n'a pas allé à Osnabrück. »
Donc, Osnabrück est physiquement présente dans votre livre et dans votre vie. Votre mère est toujours là, même si elle est partie sac à dos faire le tour de l'autre monde. Comme vous dites, il y a aussi votre grand-mère et puis il y a ce personnage de Siegfried devenu Fred. Et dans ce livre, on peut passer de 1938 à 1980, hein, parce qu'en fait, vous écrivez dans ce que vous appelez les chemins de la mémoire et on fait des allers-retours dans le temps.
Tout à fait. Mais comme ça nous arrive à nous, en réalité, nous passons d'une date à l'autre. C'est-à-dire que même si je suis à table avec vous, que nous parlons, on s'est vu la dernière fois quand ?
Au début des années 2000.
Ben voilà, alors donc, mais qu'est-ce qui nous dit que nous ne sommes pas à la fois en 2000 ou en 1990 et maintenant, et peut-être
en 2030.
En 2025. Voilà.
Hélène Cixous, j'aimerais entendre vos mots écrits un court extrait de 1938, Nuit, sachant qu'il y a un pluriel à nuit, parce que c'est la nuit de cristal, mais c'est aussi toutes les nuits qui ont succédé.
Et même 1938 nuits.
À cet événement. Donc quelques extraits où vous racontez, d'une certaine façon, pourquoi vous écrivez.
Et ce qui fait que je ne peux pas écrire ce livre qui quand même s'écrit. Je vais chez les morts. Quand ils étaient vivants, ils ne se prenaient pas pour des narrateurs. Maintenant, j'interroge leur silence. Il arrive que certains silences ne soient pas muets du tout. Par exemple, les silences de Siegfried. On sent qu'ils ne sont pas hostiles ni avares, plutôt un peu modestes. Mais on n'entendra jamais les réponses ou les explications de ceux qui ne reviennent pas à Osnabrück, parce qu'ils ne sont pas partis. Les Nussbaum, par exemple, et les Jonas, et Raphaël Flatauer. C'est à ceux-là que je m'adresse depuis des années, à ceux qui sont restés, quand leurs amis ont commencé à partir, ceux qui ont accompagné leurs enfants ou leurs frères à la gare d'Osnabrück, ceux qui ont regardé partir les trains vers toutes les directions de correspondance avec la France ou avec Amsterdam, car Osnabrück est un nœud ferroviaire. On peut passer par Mannheim, Essen, Francfort, Köln, Bremen, une dizaine de portillons et de là plus loin et de là jusqu'au Chili ou en Afrique du Sud. Ils sont restés sur le quai, ils ont agité la main et souri et les autres, leurs semblables, penchés à la fenêtre du train, ont agité la main, et comme le train s'est branlé, ils ont crié quelque chose, je sais pas quoi. Pas à bientôt, mais bon voyage. Et ceux qui partaient, j'aimerais savoir quels mots ils ont crié dans la fumée en souriant, et en rentrant à pied de la gare à Nikolai Hort. Que pensait Omi, ma grand-mère? Ceci, ou cela, et peut-être il ne faut pas y penser, ces choses, ces amis. Encore quelqu'un à remplacer au bridge? De toute façon, Frau Engels n'était pas douée. Il ne faut pas les penser, ça nous rendrait meschuga. Ceux qui sont rentrés à la maison, alors qu'objectivement, on ne pouvait plus rentrer à la maison. Je ne cesse de me dire que je ne les comprends pas. Et pourquoi je ne les comprends pas? Et pourquoi mon esprit revient-il depuis tant d'années cogné à la vitre de cette scène?
Hélène Cixous, méchougueux, dites-vous dans cet extrait, ça veut dire dingue?
Oui, ça veut dire en dingue.
Allemand. Pourquoi choisir le mot allemand?
C'est pas un mot allemand, justement.
Aïe, mince.
Non, mais vous avez raison, parce que c'est devenu un mot allemand. Quand j'étais petite, je croyais que méchougueux, que ma grand-mère utilisait parfois, je croyais que c'était de l'allemand. Quand j'ai commencé à faire de l'allemand en quatrième, je me suis fait jeter absolument par le professeur d'allemand, qui, entre parenthèses, devait être de descendance nazie. Parce que j'ai utilisé dans une petite rédaction le mot de Meschug, qui pour moi était très familier. Et elle m'a dit, c'est pas de l'allemand. J'ai dit, comment c'est pas... Mais c'est le mot que Omi me dit tous les jours. Du bist doch Meschug. J'étais dans l'ignorance du fait que ce mot Meschug, c'est en fait un mot yiddish. Ce mot yiddish a une telle fortune que on ne peut pas s'en passer aux États-Unis. Chaque fois que vous lisez quelque chose aux États-Unis, vous voyez apparaître quelque part le mot Meschug, qui est devenu un mot américain. Et qui s'est généralisé dans l'univers. Et ça faisait partie des 10 mots yiddish qui se promenaient dans la langue de ma grand-mère, laquelle ne parlait pas yiddish. Mais comme tous les Allemands qui ne parlaient que l'allemand, comme tous les Juifs qui ne parlaient pas le yiddish, quelques-uns des mots yiddish qui traversaient comme ça les frontières s'étaient greffés et étaient devenus d'usage quotidien.
Donc c'est un mot yiddish.
Mais tous ceux qui sont germanophones l'utilisent.
Alors, vous qui êtes aussi angliciste, vous parlez combien de langues, Hélène Cixous?
Ah non, je n'en parle que 3.
Allemand, anglais, français.
Et oui, mais je peux lire d'autres langues.
Ah oui, voilà. Vous pouvez lire des langues sans les parler.
Je peux lire d'autres langues. Ah oui, mais ça, c'est évidemment le grand problème. Mais ça ne fait rien, ça me permet de lire.
Et comment vous faites?
Comment je fais? Je lis les livres dans la langue originale. Comment ça?
Comment vous comprenez?
Mais j'ai appris.
Ah, vous avez appris?
Ah ben oui, quand j'ai voulu lire Clarice Lispector, je me suis dit, il faut que je la lise dans la langue. Donc je me suis mise au brésilien à ce moment-là, mais je suis incapable de le parler. Je ne suis pas allée au Brésil, voilà. Et ça, il faudrait que je m'y mette, ce que je ne fais pas.
Mais vous lisez alors combien de langues?
Pas beaucoup finalement. Ben, je peux déchiffrer le latin. Les langues scandinaves qui sont très proches de l'allemand, je peux les déchiffrer tant bien que mal. Et de toute façon, quand je travaille sur un texte qui m'importe, je vais quand même voir ce qu'il me dit dans sa langue.
Quoi
alors,
qu'il arrive.
Avec des aides. Oui.
Alors, vous êtes beaucoup étudié aux États-Unis, vous êtes angliciste, vous êtes traduite un peu partout dans le monde. Avec cette distance-là, qu'est-ce que vous pensez de l'état du français aujourd'hui ?
Ben, vous savez, ce que j'en pense, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de langues françaises. Il suffit bien sûr de se tourner vers les français qui sont parlés dans divers pays qui ne sont pas la France. Que ce soit le québécois ou les innombrables français que l'on parle en Afrique, ou qu'on parlera à Madagascar, etc. Ou alors qu'on parle même dans certaines enclaves indiennes, parce que vous savez, quand on va à Pondichéry, c'est stupéfiant d'entendre le français conservé là-bas et à peine déplacé. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'en France, il y a tant d'autres français. Bon, d'abord, mon université, Paris 8, est maintenant à Saint-Denis. Là, on parle le 93. Que j'entends, que j'écoute, et dont je me dis chaque fois, il faut quand même que je fasse attention, parce qu'ici, on parle le 93. Lequel, d'ailleurs, change constamment, à l'allure de l'américain maintenant. Et puis, il suffit de prendre le métro, il m'arrive d'être dans le métro, et d'entendre trois personnes parler de telle manière que je me dis, ah, ça, ce français-là, je ne le connais pas, celui-là, je ne le connais pas, je le comprends parfaitement, bien sûr, mais si moi, je m'ajoutais au groupe de quatre, ça ferait cinq français différents. Et il faut dire qu'il y a des français officiels, où c'est pas, enfin, légitimé, alors qu'on trouvera dans les journaux, qui d'ailleurs parlent de plus en plus mal français et font tout le temps des fautes de français. Je parle pas de celui de la télé que je n'écoute pas, parce que là, alors j'ai décidé que ça, c'est pas possible, c'est trop offensant. Et quand je vais dans le sud-ouest, et où je parle avec mes amis landais, ils ont un français absolument magnifique, avec des mots que je suis obligée d'apprendre, parce que ce sont des mots locaux, mais qui sont nécessaires.
Dans le sud-ouest, on dit adieu, pour dire au revoir.
Ça dépend des endroits. Parce qu'il y a aussi plusieurs Français du Sud-Ouest.
Merci Hélène Sixou. J'aurais juste envie de vous entendre sur la fin de votre livre qui, tout en étant très grave, se termine presque sur un rire et sur ce mot « rien ». Toute cette histoire de nuit pleine de hurlements, de méchanceté des hommes et pour rien. Dieu qui n'est autre que le bruit du rire de la vie. Est-ce que la fin du livre est ce rire ou ce mot de « pour rien » ?
Non, je pense pas. Je pense que c'est pas seulement un mot. Et il se trouve aussi que ce livre s'achève sur la découverte d'un mot. C'est un accident magnifique. Ça, c'est un cadeau des langues et des dieux des langues, ou des langues comme Dieu, à un livre. Parce que surgit à la fin du livre un nom propre. Et ce nom propre, c'est un nom propre allemand. Comme vous savez, les juifs allemands avaient des noms très allemands, et c'était des noms empruntés, comme on donne aux autochtones, si je peux dire, et qui sont souvent très 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 poétiques. Par exemple, le personnage qui passe dans le livre que je lisais tout à l'heure, c'est-à-dire Nussbaum, il y a eu beaucoup d'expositions autour de lui, c'est un jeune peintre d'Osnabrück qui a été déporté à Auschwitz. Et Nussbaum, ça veut dire l'arbre aux noix, le noyer ou le noisetier, voilà. Des Rosenberg, il y en a plein, c'est des montagnes de roses, des Rosenbaum, c'est des rosiers, etc. À l'infini, vous avez ça. Les Stein, ce sont des pierres. Et pour les germanophones, c'est très animé, tout ça. Voilà. Ma propre famille s'appelait en partie Jonas, ça, ce sont les Jonas de la Bible, les Jonas, ou les Klein. Les Klein, c'est-à-dire les petits. Bon. Et puis, se présente le nom d'un monsieur d'Osnabrück qui s'appelle Gottschalk. Ça, c'était un nom que je ne connaissais pas. Je me suis dit, tiens, mais ça doit vouloir dire quelque chose, comme d'habitude. Et ce Gottschalk, qui est quelqu'un qui est déporté, je découvre avec ma mère que ça veut dire une espièglerie de Dieu. Je me suis dit, alors là, quand même, c'est un vrai cadeau. Quelqu'un qui s'appelle comme ça. Et il est le premier à avoir été, par une série de hasards incroyables, extirpé de Buchenwald et mis en liberté.
Donc c'est une espièglerie de Dieu.
Voilà.
Merci Hélène Sixou. 1938 Nuit, votre nouveau récit est édité chez Galilée. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Véronique Durand et Guillaume Ploquin à la réalisation. Merci et à très vite.